sur Fréquence 7, comme chaque premier mercredi de mois, on se retrouve, qu'il soit 12h30 ou 17h30, pour l'émission Clair d'Étoile. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Denis de l'association Clair d'Étoile et Brin de Jardin. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Clair d'Étoile. Bonjour Françoise.
Comme tous les mois, nous présenterons d'abord un bref panorama de ce qu'il sera possible de voir dans le ciel, à l'œil nu ou aux jumelles, dans le mois qui vient. Puis nous poursuivrons par un focus consacré cette fois au bolide. Mais en attendant, Denis, que pourrons-nous donc voir dans le ciel au cours de ce mois d'octobre ?
Eh bien, au rendez-vous, il y a des étoiles, des planètes, des étoiles filantes, ainsi que quelques beaux rapprochements entre planètes. Commençons par les conditions d'observation. Elles sont bien plus favorables qu'en plein été, car la nuit débute tôt, 21h en début de mois, et même 20h vers la fin. Avec un petit bonus, le 31, il fera nuit dès 19h.
Oui, ce n'est pas que le jour va brutalement raccourcir le 31 octobre ou que les monstres d'Halloween vont venir croquer la nuit, mais ce dernier dimanche d'octobre, nous passerons à l'heure d'hiver. Il faudra reculer vos montres, si vous en utilisez encore, d'une heure.
Et ce sera symétrique pour le lever du jour. Il passera progressivement de 7h à 8h au cours du mois pour faire un retour brutal à 7h le 31. Les lève-tôt vont retrouver un peu de lumière. C'est d'ailleurs le but de l'opération, mais cela ne durera pas. Revenons au ciel, la brillante Arcturus du Bouvier et les trois belles de l'été au sein des constellations du Cygne, de la Lyre et de l'Aigle disparaissent de plus en plus sous l'horizon. Elles sont progressivement remplacées par les magnifiques essaims des Pléiades et du Taureau et l'arrivée plus tard de la nuit de la fabuleuse Orion qui trône presque sans partage dans le ciel d'après-minuit.
C'est la fête d'ailleurs pour les utilisateurs de jumelles, même modestes. Diriger l'instrument vers les Pléiades, ce petit groupe serré d'étoiles est bien visible à l'œil nu, à l'est, à partir de 22h. Et c'est un véritable petit joyau brillant de mille feux. Vous contemplez une sororité de plusieurs milliers d'étoiles, mais vous n'en verrez pas tant aux jumelles. Elles sont nées ensemble il y a environ 100 millions d'années.
Des jouvencelles à l'échelle astronomique. Et bien plus tard dans la nuit, toujours avec vos jumelles, vous pourrez admirer au sein de la grande nébuleuse d'Orion des gamines encore plus jeunes, dont certaines même en train de s'allumer. Si vous ne savez pas où trouver Orion, procurez-vous une carte du ciel ou consultez l'Internet. La constellation est très facile à identifier.
D'autres étoiles et constellations intéressantes ?
Oui, mais il faut en laisser pour le mois prochain. Passons donc aux planètes. Nous sommes assez gâtés en ce mois d'octobre, car quatre planètes visibles à l'œil nu nous sont accessibles selon l'heure de la nuit. Peu après le coucher du soleil, au-dessus de l'horizon ouest, et visible jusqu'à 20h-20h30, brille l'astre le plus lumineux du ciel, Vénus. Mais elle se couchera très vite pour laisser le trône à Jupiter, qui flamboie dans la direction du sud vers 22h. Jupiter est précédé, donc un petit peu plus vers l'ouest, de Saturne. Les deux planètes se coucheront après minuit. Si vous avez de bonnes jumelles, de préférence sur pied, tentez de distinguer les quatre gros satellites de Jupiter. Quelques jours avant et après le 25 octobre, et aux environs de 7h du matin jusqu'à sa disparition dans les lumières du levant, il sera possible de voir la planète Mercure. Profitez-en, c'est un spectacle plutôt rare sous nos latitudes.
Oui, et j'ai une autre petite astuce à proposer pour être stable quand on observe les satellites de Jupiter avec des jumelles. Si on n'a pas de pied, on peut utiliser une échelle, par exemple une échelle à barreaux plats, comme celle pour monter à un lit, et on la met devant soi et on cale bien ses coudes sur les barreaux. Mais Denis, tu avais aussi évoqué les rapprochements, et pendant que j'y pense, y aura-t-il des étoiles filantes à voir en ce mois ?
Il y a toujours des étoiles filantes. On pense à tort qu'elles ne sont visibles qu'en été, mais c'est simplement parce qu'on regarde plus fréquemment le ciel en été. Par exemple, regardez dans la direction de la Grande Ourse aux environs du 8 octobre. Vous verrez la pluie des Draconides. Le 17, vers le nord, vous pourrez bénéficier de la pluie des Léonides.
Et tu avais évoqué des rapprochements. Que se passera-t-il la nuit du 9 octobre, Denis ?
Jour de la Saint-Denis, soit dit en passant, aux environs de 19h30. Un spectaculaire rapprochement de Vénus avec un fin croissant de lune. Là aussi, n'hésitez pas à sortir les jumelles. Mieux, nous animerons ce soir-là une séance d'observation au télescope sur le magnifique site du col de la Croix de Millet. Cette animation est réalisée en partenariat avec le PNR des Monts d'Ardèche sur le thème de la pollution lumineuse. Il faut s'inscrire à l'avance par un courriel à l'adresse accueil@parc-mont-ardèche.fr.
Quelle modestie, convoquer Vénus et Sélénée pour célébrer sa fête, excusez du peu. Mais ne nous égarons pas, il est temps de passer au focus. Il s'agit donc des bolides, et je pense à celui qu'ont pu voir les Bretons dans la nuit du 5 septembre dernier. Un gros point lumineux, très brillant, qui a traversé le ciel pendant plusieurs secondes. Certains observateurs ont même pu percevoir, dans les secondes suivantes, un grondement très audible.
En effet, les analyses des images et observations, plus de 600 quand même, enregistrées par le réseau Fripon, permettent de déduire qu'il s'agissait d'un objet d'une centaine de kilos qui a survolé Quimper puis Brest pour se désintégrer en atteignant une quarantaine de kilomètres d'altitude. Les débris résultants, quasiment sous forme de poussière, sont tombés dans la Manche.
Ah, dommage, on ne va pas retrouver les débris alors. Mais il va être nécessaire de donner pas mal d'explications à nos auditeurs. Pour commencer, qu'est-ce qu'un bolide ? Un météore, une étoile filante, une météorite, un astéroïde ? Et aussi, qu'est-ce que c'est que le réseau Fripon ?
Même si nous l'avons déjà fait lors des missions précédentes, un peu de terminologie ne fait pas de mal, histoire d'être sûr que nous parlons tous de la même chose. Le nom météore, très général, désigne tout phénomène physique, pas forcément astronomique, qui se déroule dans l'atmosphère.
Et ils sont nombreux. Les nuages, le vent, la pluie, les arcs-en-ciel et bien sûr les étoiles filantes, les bolides et les météorites sont des météores.
Étoiles filantes, bolides et météorites sont des manifestations physiques différentes d'un même phénomène. L'entrée dans l'atmosphère terrestre, à très haute vitesse, d'un corps céleste plus ou moins massif. Selon les cas, les vitesses d'arrivée s'étagent entre une ou plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, ou si l'on préfère, entre 35 000 et 90 000 km/h. Dès qu'ils pénètrent l'atmosphère, disons en dessous de 100 km d'altitude, le choc avec les molécules de l'atmosphère est très violent. Ces dernières s'échauffent considérablement et apparaissent ce que l'on appelle un mécanisme d'ionisation de l'air, accompagné d'une forte élévation de température et d'émission de lumière vive. C'est très proche de ce qui se passe lors de l'apparition d'un éclair lors des orages.
Ah, à noter que contrairement à ce que l'on dit souvent, c'est donc l'ionisation de l'atmosphère ambiante qui génère la trace lumineuse. Le corps qui rentre dans l'atmosphère ne brûle pas. Il s'échauffe fortement, sa surface fond superficiellement et les contraintes mécaniques liées au freinage intense peuvent provoquer sa rupture en multiples fragments.
La masse initiale influe considérablement le devenir de ce météore. La majorité d'entre eux sont très petits, de la taille d'un grain de sable ou d'un petit gravier, et ils sont très rapidement freinés et transformés en poussière avant d'atteindre une altitude de 60 à 50 km. Ces poussières tombent alors doucement au sol, et si l'on sait les reconnaître, on peut facilement en retrouver en particulier sur les grandes surfaces neigeuses où elles sont plus facilement visibles.
C'est ce que l'on appelle les étoiles filantes. On peut en observer de nombreuses chaque nuit, parfois plusieurs centaines. Les bolides, comme celui du 5 septembre, sont moins fréquents, mais pas si rares toutefois. Rien qu'en France, on en enregistre plusieurs par an. Un bolide, c'est donc une grosse étoile filante.
Exactement. Celui de Brest pesait au départ environ 1 kg, d'où la forte production de lumière et même le bruit analogue à celui produit par un avion supersonique. Toutefois, comme il était particulièrement rapide au départ, plus de 20 km seconde, c'est-à-dire plus de 70 000 km par heure, il s'est très vite fragmenté sous l'effet des contraintes mécaniques et a disparu vers 40 km d'altitude. Mais s'il était arrivé un peu moins vite, ou avait possédé une masse un peu supérieure, il aurait très bien pu arriver au sol presque entier, ou du moins en fragments conséquents. Dans ce cas, on lui aurait donné le nom de météorite, et il ne manque pas d'exemples célèbres. Celle qui a éliminé les dinosaures il y a 65 millions d'années, celle de Chelyabinsk en 2013, et pour rester en Ardèche, celle de Juvinas en 1821 et de Sautre le 27 février 2019. Cette dernière, d'une taille finale probable d'une balle de golf, n'a hélas pas pu être trouvée malgré les efforts des équipes de Vigiciel.
Tu viens d'évoquer Vigiciel et un peu avant le réseau Fripon. Il est temps d'expliquer ce que recouvrent ces deux termes, d'autant que tout le monde, dont nos auditeurs, peuvent participer à cette démarche de science participative. Alors, commençons par le réseau Fripon. Pour la France, car il commence à se développer aussi sur plusieurs pays européens, ce réseau est basé sur une centaine de caméras vidéo automatiques. Elles sont situées sur les toits d'observatoires professionnels ou amateurs, d'universités ou encore de musées, et filment la voûte céleste de 360 degrés, de jour comme de nuit. Il en existe une à Aubenas, dans le voisinage immédiat du château. Le réseau est suffisamment dense pour que chaque événement, comme celui du 5 septembre, soit enregistré simultanément par plusieurs caméras.
Et c'est en appliquant des traitements informatiques sophistiqués à ces différents enregistrements qu'il est possible de calculer, puis de déduire de nombreuses informations sur le corps à l'origine des détections. On peut ainsi mesurer sa trajectoire, la vitesse d'entrée dans l'atmosphère, les altitudes d'apparition et de disparition du bolide, et en déduire sa masse probable, et, si le bolide a donné lieu à une météorite, le lieu de chute approché, afin de mobiliser des équipes de recherche pour tenter de récupérer une partie de l'objet. Fripon, le réseau de caméras, est l'un des éléments d'un projet de science participative appelé Vigiciel. L'objet de Vigiciel est de favoriser l'observation des étoiles filantes, de rechercher des météorites et aussi de détecter d'éventuels cratères d'impact terrestre qui n'auraient pas encore été recensés.
Il y aurait des cratères d'impact sur Terre comme sur la Lune ? Pourtant, la plupart des météorites que nous avons évoquées jusque-là n'ont pas creusé de cratères. Je pensais que ces cratères ne concernaient que des chutes catastrophiques, donc très rares.
Et tu as raison. Dans la majeure partie des cas, même pour celles qui atteignent le sol, les météorites sont suffisamment freinées par l'atmosphère terrestre pour chuter à une vitesse très raisonnable, 100 à 200 km par heure, ce qui est très insuffisant pour creuser un cratère. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne pourrait pas les retrouver. Mais il y a de rares chutes où le corps d'origine est tellement massif qu'il n'est quasiment pas freiné, et là les dégâts sont conséquents. Même si l'érosion naturelle sur Terre a effacé la quasi-totalité des cratères, on peut à travers notamment des vues aériennes en retrouver des traces. Et c'est l'objet justement du sous-projet Vigicratère.
Vigiciel et ses sous-projets Fripon, Vigicratère et peut-être d'autres dans l'avenir sont donc ce que l'on appelle des projets de science participative, c'est-à-dire que toute personne intéressée peut y collaborer. Nul besoin d'être docteur en astrophysique pour cela, curiosité et passion suffisent. Si vous voulez en savoir plus, aider à trouver de nouveaux cratères d'impact ou des débris de météorites, ou encore si vous avez été témoin d'un phénomène intéressant que vous souhaitez signaler, connectez-vous sur le site vigi-ciel.org. Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez de l'aide. L'adresse du site de Claire d'Étoile est facilement accessible sur votre moteur de recherche préféré. En attendant, nous vous souhaitons un bon mois d'observation astronomique et nous vous retrouvons début novembre pour une nouvelle émission.